de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président encourage les écoles professionnelles à collaborer avec l'industrie. Il n'y a pas eu d'attaque contre le quartier général du contingent indonésien au Liban, a affirmé le ministère des Affaires étrangères. L'Indonésie s'engage à atteindre NDC et net zéro en 2050. Le don de la Fondation Tahir à Gaza est un soutien concret du peuple indonésien, a affirmé le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Santé a vacciné 157 personnes à risque de variole du singe. L'Indonésie et Singapour discutent de 6 questions de transformation numérique. Le gouvernement polonais Ambon ouvre des opportunités de coopération dans le secteur du tourisme. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo encourage les écoles professionnelles à collaborer avec le monde industriel. Avec cette collaboration, le président estime que les compétences des étudiants peuvent être mieux formées en fonction des besoins de l'industrie. Il a transmis cela après avoir inspecté SMK Negeri de Palembang, en ville de Palembang, la province de Sumatra du Sud, jeudi. Le président a déclaré que l'investissement était très important pour absorber la main-d'œuvre. Il a souligné que c'est pourquoi l'Indonésie ouvre autant que possible les investissements. L'investissement absorbera les travailleurs des écoles professionnelles et des universités. Selon le président, sans investissement, il est inutile pour l'Indonésie de préparer des ressources humaines supérieures et personne ne les absorbera. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y avait aucune attaque dirigée contre le quartier général du contingent indonésien de la Finul au sud du Liban. Cette déclaration a été transmise jeudi par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, en réponse à l'intensité croissante des attaques mutuelles entre Israël et le groupe du Hezbollah le long de la frontière libano-israélienne. Le ministère des Affaires étrangères a noté que 1200 membres du contingent indonésien servent au sein de la FINUL, la force temporaire des Nations Unies au Liban. Leur zone d'action se situe au sud du Liban, notamment le long des frontières terrestres et maritimes libano-israéliennes. Iqbal a confirmé que le contingent indonésien disposait déjà d'un plan de secours en cas de détérioration des conditions de sécurité. L'Indonésie s'engage à atteindre la contribution déterminée au niveau national, NDC, et à atteindre zéro émission nette en 2050, ou plutôt pour accélérer la transition énergétique. À long terme, il existe des opportunités de développement d'installations d'énergie solaire et géothermique. C'est ce qu'a déclaré jeudi le personnel spécial du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, Ego Sahriel, dans un communiqué cité par Antara. Cela a également été exprimé lorsque la délégation de l'Union européenne en Indonésie a tenu une conférence sur le thème « La route vers une Indonésie prospère » soutenue par les énergies renouvelables. Cette conférence rassemble diverses parties prenantes du secteur de l'énergie à partir du gouvernement, des organisations internationales, du secteur privé à la société civile. Pendant ce temps, l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Denis Chaibi, a déclaré que l'Union européenne avait confirmé un engagement de 2,4 milliards d'euros pour le partenariat pour une transition énergétique juste en Indonésie. Le directeur du Bain Orient du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Bagus Hendraningko Barshi, a déclaré que la fourniture de net de la Fondation Tahir d'une valeur de 500 000 dollars américains équivalent à 7,5 milliards roupias pour Gaza et la Palestine montre le soutien concret du peuple indonésien. La Fondation Tahir fournit des dons humanitaires pour la Palestine par l'intermédiaire de l'ambassadeur palestinien en Indonésie, Zuhair Al-Shun, à Jakarta, jeudi 26 octobre. Bagus Hendrani espère qu'à l'avenir, le peuple indonésien et le monde entier apporteront beaucoup d'aide. Pendant ce temps, le fondateur de la Fondation Tahir, Dato Sri Tahir, a déclaré que les dons seront distribués aux hôpitaux de Gaza, y compris à l'hôpital indonésien. À cette occasion, l'ambassadeur Zuhair a exprimé ses remerciements à la Fondation Tahir pour son soutien à la Palestine. Selon Zuhair, ce don montre que l'Indonésie est toujours concentrée et prise pour la Palestine. Le ministère indonésien de la Santé a vacciné 157 personnes présentant un risque de contracter le virus de la variole du singe. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de la prévention et du contrôle des maladies du ministère de la Santé, Marcy-Rène Rondonou, lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté en ligne jeudi à Jakarta. Ce groupe a été choisi en tenant compte du fait que tous les cas actifs provenaient d'infections ou de transmissions locales interdépendantes. À ce jour, il y a 14 cas de variole du singe en Indonésie. Marcy a déclaré qu'actuellement, sa partie avait préparé 1000 doses de vaccins qui sont administrées à 2 doses à chaque cible. Le ministère de la Santé s'est également coordonné avec l'ASEAN pour obtenir 2000 doses de vaccins supplémentaires. Les dernières données de l'OMS montrent que des cas de variole du singe ont été détectés dans 115 pays. Les gouvernements indonésien et singapourien, lors d'une réunion bilatérale, ont discuté de 6 questions liées à la transformation numérique dans le cadre d'une série d'échanges d'informations entre les deux pays. La secrétaire générale du ministère de la Communication et de l'Informatique, Mira Taïba, a déclaré jeudi dans sa déclaration que la question de la transformation numérique avait été abordée lors de la réunion comme tenu du développement rapide de la numérisation dans les deux pays. Les 6 questions abordées étaient le protocole d'accord, la feuille de route numérique, la protection des données, l'économie numérique, l'infrastructure numérique et les médias. La réunion bilatérale s'est tenue à Jakarta mercredi 25 octobre sur le thème le 9e comité mixte d'information et de communication CIJC Indonésie-Singapour. Le maire par intérim d'Ambon, Bodewin Watimena, a déclaré que le gouvernement polonais avait ouvert des opportunités de coopération dans le secteur du tourisme avec le gouvernement de la ville d'Ambon. Il l'a transmis jeudi à Ambon lors de la visite de l'ambassadeur adjoint de Pologne en Indonésie, Stefan Piotr Firlus, à Ambon. Selon Watimena, l'ambassadeur adjoint de Pologne a l'intention d'explorer la possibilité d'une coopération dans le secteur du tourisme, car d'après les registres de touristes polonais qui visitent la capitale de la province des Moluques, il y en a un grand nombre, à savoir 200 personnes par an. Outre le tourisme, le gouvernement polonais s'intéresse également à la coopération dans le secteur de l'éducation à travers le programme de 100 jeux d'étudiants de l'Université de Patimura. Ce jour de tard, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers les auditeurs, bonsoir. Voici l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Conseil de sécurité de l'ONU n'a toujours pas réussi à adopter une résolution concernant le conflit israélo-palestinien ». Avec moi, Audrey. Chers auditeurs, le Conseil de sécurité de l'ONU, CSNU, n'a pas encore réussi à adopter une résolution concernant le conflit israélo-palestinien. Lors d'une réunion tenue mercredi 25 octobre 2023, deux projets de résolution soumis séparément par la Russie et les États-Unis n'ont pas pu être adoptés en raison de veto. Le projet de résolution des États-Unis se concentre sur la réponse à l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza. Dans leur proposition, les États-Unis appellent à la cessation des violences pour permettre l'ouverture des routes de l'aide humanitaire. Mais les États-Unis n'ont pas proposé de cesser le feu. Le projet de résolution des États-Unis n'a pas obtenu le nombre minimum de voix car il n'a reçu que 10 voix pour. Pendant ce temps, la Russie, la Chine et les Émirats arabes unis s'y opposent. La proposition de résolution présentée par la Russie n'a pas non plus été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU mercredi 25 octobre 2023. La Russie, dans sa proposition, a proposé un cessez-le-feu humanitaire immédiat et durable et a condamné toute violence et hostilité contre les civils. Seuls la Russie, la Chine, les Émirats arabes unis et le Gabon ont soutenu la proposition de résolution de la Russie. 9 membres se sont abstenus. Tandis que les États-Unis, l'Union et la Grande-Bretagne se sont opposés à la proposition. Une résolution nécessite au moins 9 voix et aucun veto des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Chine pour entrer en vigueur immédiatement. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, s'est dit déçu de l'échec du Conseil de sécurité de l'ONU à adopter la résolution pour la deuxième fois. Al-Maliki, cité par Republica.com, 25 octobre 2023, a déclaré que l'échec répété du Conseil de sécurité à mettre fin à l'agression brutale d'Israël ne peut être pardonné. Il a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à mettre immédiatement fin au massacre perpétré par Israël contre la population de la bande de Gaza. L'expression de déception du ministre palestinien des Affaires étrangères est tout à fait raisonnable. Une résolution concernant le conflit israélo-palestinien est attendue avec impatience, car seule une résolution approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies permet une intervention plus rapide et plus efficace dans des situations critiques ou des situations de guerre. Sans une résolution approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, la guerre continuera et les pertes en vies humanitaires continueront d'augmenter. Selon les données compilées par le Bureau des Nations Unies, pour la coordination des affaires humanitaires OCHA du ministère de la Santé de Gaza et les déclarations officielles du gouvernement israélien entre le 7 et le 25 octobre 2023, la guerre israélo-palestinienne a fait environ 8000 victimes des deux côtés. Jusqu'au 19e jour de la guerre, soit mercredi 25 octobre 2023, le nombre total de victimes du côté palestinien était environ 4 fois supérieur à celui du côté israélien. OCHA a noté que la majorité des victimes palestiniennes se trouvaient dans la bande de Gaza, avec un bilan d'environ 6 500 47 morts. En Cisjordanie, le bilan s'élève à 102 morts. Pendant ce temps, les pertes israéliennes s'élèvent à environ 1402 personnes. OCHA a également signalé qu'environ 1600 Palestiniens à Gaza étaient portés disparus, dont environ 900 enfants. Le monde espère toujours qu'il y aura une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies concernant le conflit Hamas-Israël. Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies ne sont pas contraignantes, mais elles ont au moins un poids politique. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique L'histoire d'aujourd'hui, le 27 octobre. Le 27 octobre 1945 est la fondation de la Compagnie d'État d'électricité, ou PLN. Après la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie le 17 août 1945, des jeunes Indonésiens s'emparaient de la compagnie d'électricité contrôlée par le Japon en septembre 1945 avant de la livrer au gouvernement de la République d'Indonésie. Le 27 octobre 1945, le président Sukarno crée le service de l'électricité et du gaz. À cette époque-là, la capacité de production d'énergie n'était que 157,5 MW. Maintenant, on commémore le 27 octobre en tant que Journée nationale de l'électricité. La compagnie d'électricité d'État, ou mieux connue sous le nom de PLN, est une entreprise publique indonésienne qui opère dans le domaine de la production et transmission et de la distribution d'énergie électrique. PLN existe depuis le 19e siècle, fondée par une usine de sucre et de thé néerlandaise. Lorsque les troupes coloniales japonaises sont arrivées sur le territoire indonésien, tous les droits de propriété des entreprises néerlandaises ont été repris par l'armée impériale japonaise. Cette prise de contrôle n'a duré que jusqu'à ce que l'Indonésie obtienne son indépendance. Après l'indépendance de l'Indonésie le 17 août 1945, la compagnie d'électricité contrôlée par le Japon est saisie par des jeunes Indonésiens en septembre 1945 et ensuite remise au gouvernement de la République d'Indonésie. Le 27 octobre 1945, le président Sukarno crée le Bureau de l'électricité et du gaz relevant du département des travaux publics et de l'énergie, avec une capacité de production d'électricité de 157,5 MW. Pour apprécier le rôle de l'électricité dans le développement et la prospérité de la nation, le 27 octobre est célébré comme la Journée nationale de l'électricité. La création de la journée sur la base du décret présidentiel numéro 43 de 1983. Le 27 octobre est la Journée nationale de l'aviation. La commémoration de la Journée nationale de l'aviation est basée sur l'événement historique du 27 octobre 1945. À cette époque-là, le commandeur de l'air Agustinus Adi Sucipto a réussi à faire voler l'avion Tureng. Lorsque l'Indonésie s'est emparée de l'aéroport Maguwo à Yogyakarta, l'avion Tureng a également été confisqué. Les techniciens indonésiens ont réussi à réparer l'avion endommagé et à le réarranger en rouge et blanc. Adi Sucipto l'a piloté à la base aérienne de Maguwo, qui est maintenant connue sous le nom de base aérienne Adi Sucipto. L'avion Tureng est un avion volé aux envahisseurs japonais. Le premier vol effectué par le commandeur de l'air Agustinus Adi Sucipto a réussi à avoir un impact énorme, à savoir l'enthousiasme du peuple indonésien pour développer la puissance aérienne nationale. C'est pourquoi chaque 27 octobre est célébré comme la Journée nationale de l'aviation depuis 1974. Le 27 octobre 2007 est la Journée nationale des blogueurs. Initialement, la Journée nationale des blogueurs était connue et célébrée sous le nom de la Fête des blogueurs qui s'est tenue le 27 octobre 2007. Le ministre de la Communication et de l'Information de l'époque, Mohamed Nuh, a ouvert un événement pour accueillir les blogueurs de toute l'Indonésie. Mohamed Nuh a déclaré que le 27 octobre, la Journée nationale des blogueurs, l'événement annuel de la Fête des blogueurs développé et réussi à attirer de nombreux blogueurs nationaux à y participer. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie, dont le titre est « Le commerce alimentaire est l'une des clés de la sécurité alimentaire ». Les produits alimentaires volatiles ou aliments volatiles restent l'un des défis pour la sécurité alimentaire nationale de l'Indonésie. La nourriture volatile revient toujours chaque année. Cette situation est influencée par les récoltes, les perturbations naturelles et l'évolution des prix des produits alimentaires nationaux et internationaux. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'agence de politique commerciale du ministère indonésien du commerce, Kassan, lors d'un séminaire intitulé « Les défis mondiaux du commerce alimentaire » à Jakarta, mercredi 25 octobre, cité par Antara. Selon Kassan, la sécurité alimentaire de l'Indonésie est encore à la traîne par rapport à celle de Singapour, de la Malaisie et du Vietnam. Par rapport à l'Indonésie, Singapour importe plus de produits alimentaires. Cependant, Singapour gère mieux les problèmes de sécurité alimentaire que l'Indonésie. Cela prouve que les pays qui dépendent du commerce alimentaire étranger n'ont pas nécessairement de difficultés à surmonter leur sécurité alimentaire. Pendant ce temps, la Thaïlande, qui exporte beaucoup de produits alimentaires, a un indice de sécurité alimentaire inférieur à celui de l'Indonésie. Kassan a également expliqué que les pays ayant le statut de grand producteur ou importateur n'ont pas nécessairement un bon statut de sécurité alimentaire. Kassan a déclaré que le commerce alimentaire est une solution pour la sécurité alimentaire. Dans les registres mondiaux, la nourriture ne figure pas encore parmi les 5 produits les plus d'échanges. Les 5 produits qui restent les favoris du commerce mondial sont les combustibles minéraux, les machines électriques et ses équipements, les automobiles, les produits chimiques et les plastiques. Le ministère du Commerce a mené diverses collaborations commerciales internationales pour soutenir la sécurité alimentaire, comme avec l'Organisation mondiale du commerce, OMC, pour augmenter la productivité, obtenir la facilitation des échanges, la gestion des stocks et la coopération internationale. En dehors de cela, en tant que présidente de l'ASEAN 2023, l'Indonésie, par l'intermédiaire des ministres d'Agriculture et des Forêts de l'ASEAN, AMAF, réalise divers livrables économiques prioritaires, PED. L'un des PED est la déclaration des dirigeants de l'ASEAN sur le renforcement de la sécurité alimentaire. Pendant ce temps, les ministres économiques de l'ASEAN promouvent deux PED susceptibles de soutenir la sécurité alimentaire en Asie du Sud-Est, à savoir la mise en œuvre d'un certificat d'origine ou la mise en œuvre complète du certificat d'origine électronique via le guichet unique de l'ASEAN et l'élaboration d'une feuille de route pour l'harmonisation des normes au sein de l'ASEAN pour soutenir la mise en œuvre des ODD ou d'une feuille de route des normes harmonisées de l'ASEAN pour soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel avec moi, Audrey. Je vais vous présenter cette fois la plage d'Angadouber de la Papouasie. Chers auditeurs, en voyageant à Biak Numfor, en Papouasie, vous trouverez plusieurs belles plages pour ceux d'entre vous qui aiment la plongée, le snorkeling et la natation. L'une des plages que vous pouvez visiter est la plage d'Angadouber. Cette plage au beau panorama et au sable blanc se trouve sur la côte la plus orientale de la côte sud de Biak Numfor. L'emplacement est à 32 km du centre-ville de Biak et peut être atteint en 5 minutes environ. En arrivant à Angadouber, vous pouvez voir une vaste étendue de mer claire et allant du verdâtre au bleu de plus en plus au loin. Le sable de la plage est blanc et doux. Derrière la plage se trouve une rangée de cocotiers avec un belvédère qui peut être utilisé pour se reposer. La plage d'Angadouber est un endroit idéal pour nager, jouer dans l'eau et plonger. Si vous plongez, vous verrez la beauté des récifs coralliens colorés de cette plage. Dans une autre partie de la plage d'Angadouber, il y a un pont naturel en forme de falaise qui s'avance vers la mer et qui constitue la porte d'entrée de la plage de sable blanc qui fait face directement au groupe d'îles Padaido. Vous pouvez immédiatement plonger dans l'eau de mer bleue. Une autre particularité de cette plage est qu'elle contient des roches coralliennes qui émettent de l'eau douce lorsque l'eau est basse. Cette eau douce est également une source d'eau pour les riverains. Pas loin de la plage d'Angadouber, vous pourrez visiter d'autres attractions touristiques, telles que le parc des oiseaux et des orchidées, Telaga Biru Pare, la plage de Bosnique et la plage de Piare. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel. Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'Indonésie en couleur, intitulé Exposition Kahati 2023, avec moi Audrey. Serge Ritard, le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, organise une exposition sur la biodiversité de Nusantara, ou Kahati Expo 2023, en commémoration de la Journée nationale des Puspa et de l'amour animal. Le chef du bureau des relations publiques du KLHK, Nunu Anugrah, a déclaré que cette activité était un élan pour inviter le public à se soucier davantage de la flore, de la faune et de la biodiversité de l'Indonésie. Kahati Expo 2023 s'ouvre à la Pangan Banteng, Jakarta, du 21 octobre au 5 novembre. Cette activité constitue également un événement de socialisation efficace pour éduquer le public sur l'introduction de la biodiversité et de la conservation en Indonésie, y compris son utilisation. À travers l'Expo Kahati 2023, le public est également invité à travailler ensemble pour préserver la flore et les faunes afin de contribuer à résoudre les défis auxquels le monde est confronté, à savoir la pollution de l'air, le changement climatique et la perte accélérée de la biodiversité, la Journée nationale de l'amour des nymphes et des animaux. Célébré chaque 5 novembre, constitue une étape importante dans le mouvement visant à sauver les plantes et les animaux locaux de la menace d'extinction. En plus d'équilibrer l'environnement, la diversité des puspas et des animaux peut également améliorer la qualité de l'environnement, ce qui a un impact sur les aspects sanitaires, économiques et de sécurité alimentaire. Kahati Expo 2023 sera également agrémenté de divers événements musicaux, de conférences sur la conservation et d'un festival culinaire indonésien. Bon chargeur d'art, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Jika kau ingin pergi, satu pintu kau. Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Bangka Belitung, intitulée Yo Miak. Chers amis, la chanson Yo Miak est devenue une tradition orale chantée lors de la récolte du poivre. Yo Miak raconte l'histoire des traditions agricoles du peuple Belitung qui sont pleines de valeurs d'unité, d'harmonie et de coopération mutuelle. Les paroles de Yok Miak enseignent également l'importance de travailler dur pour obtenir un maximum de résultats, une invitation à travailler avec joie de la beauté de la vie basée sur la philosophie du Selawang Sedulang, à savoir la coopération mutuelle dans tous les aspects de la vie. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Bangka Belitung intitulée Yo Miak. Bonne écoute.
Kebun kau me, mawala suya.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.